Le concours vitrine de toutes les musiques vous présente en préliminaire ses 21 oiseaux rares. Du 19 février au 3 avril, c'est au Francouverte que ça se passe. Faites le plein de nouveautés musicales au sympathique Lion d'Or et découvrez 3 artistes et formations par soirée ainsi qu'un invité surprise. Soyez au rendez-vous afin de contribuer au choix des 9 demi-finalistes. Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM.
Les Cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca. Branche-toi.
Tous les mardis à 20h au Théâtre Sainte-Catherine, c'est la soirée Art Machine. Venez découvrir le show le plus éclectique en ville. Humoristes, musiciens, clowns, artistes burlesques et autres what the fuck se partagent la scène du Théâtre Sainte-Catherine. Venez vivre avant de mourir. Le tout est accompagné du house band The Firing Squad. 10$ prix régulier, 7$ prix étudiant. Le Théâtre Sainte-Catherine est situé au 264 Sainte-Catherine-S, à 2 pas du métro Berry-UQAM. Les portes ouvrent à 19h30, show 20h.
Art Machine.
Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
La carte Campus Quartier Latin, c'est des rabais instantanés dans 20 commerces participants. Viens chercher ta carte gratuite devant les locaux de choc.ca et économise partout sur ton campus étudiant, le Quartier Latin. Pour plus d'informations, rends-toi sur quartierlatin.ca dans la section « Privilèges étudiants ». La Société de développement des périodiques culturels québécois vous présente le Printemps des revues. Que vous soyez passionné de cinéma, d'art visuel, de musique, de théâtre, que vous aimiez vous plonger dans les nouvelles et les poèmes ou que vous souhaitiez approfondir les enjeux de société, vous trouverez parmi les 45 revues de la SEDEP. Du 6 au 25 mars, les revues culturelles québécoises vous donnent rendez-vous. Pour plus de détails, rendez-vous sur sedep.qc.ca.
Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça.
Switch off your television set immediately unless you are prepared to be really terrified.
Bonsoir, chères créatures de la nuit. Bienvenue aux Oubliettes, votre sanctuaire des films étranges et oubliés en VHS. Je me présente, votre animateur, Simon Predge, et je suis en compagnie du philatéliste Olivier Bigonnès.
Bonsoir.
Et du collectionneur célèbre de macarons de tout acabit, Marc Boisclair de Horreur Québec. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, ce soir, nous allons discuter de choses et d'autres. Pour commencer, je ferai pas l'émission complète comme ça. C'est insupportable.
Excusez, mon micro était pas ouvert.
C'est peut-être moi qui l'avais pas allumé comme faux. T'es sur le 1, c'est ça?
Oui,
c'est ça. Parfait, on va fermer le 2. Je pense que j'avais allumé le 2. C'est mon erreur. Comment ça va, les boys?
Ça va bien, toi?
Ah, ça va, ça va. Je me sens comme un philatéliste en regardant Les Aventuriers du Temps Perdu. Je suis en feu! Ben non, je suis de bonne humeur, c'est okay. Tout, là. Pourquoi? Ben, ça, d'abord, parce qu'on a des maudits bons chiffres. Hey, on va se le dire, là.
Oui.
À date, là, 2018 est une superbe année pour le podcast. Ben, déjà, 2017, ça allait en grandissant. 2018, encore plus, une maudite belle année pour le podcast en général, en particulier au Québec et en France. C'est en pleine floraison, on dirait. Puis, autant du côté auditeur que production. C'est-à-dire que il semble que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter du podcast et ça fait du bien.
Oui.
Ça prend du temps à installer, on dirait, au Québec, mais de plus en plus, ce médium-là est reconnu et écouté. Donc, merci beaucoup, hein, on va se le dire. On a des maudites belles stats en ce moment. On est rendu, les Oubliettes, la troisième émission, du moins pour février, la troisième émission la plus écoutée de choc.ca.
Bravo.
La deuxième étant Ars Moriendi. Mais ça, je dis rien. Mais pour vrai, c'est grâce à vous, chers auditeurs. On est content que vous aimiez ça. Vous semblez aimer ça, en tout cas. Tant mieux. On n'est pas prêts d'arrêter. On aime ça, vous jaser de films.
On trippe faire ça, faire découvrir des nouveaux films, puis les décortiquer. Puis c'est un beau cadeau, hein?
C'est le fun. C'est une bonne nouvelle. Je considère que cette année, les oubliettes ont level up. Hey, sur ce, moi, j'ai pas de petites annonces pour commencer. Alors, je propose tout de suite qu'on se lance avec des petites annonces du milieu de l'horreur, considérant qu'on a avec nous Marc Boisclair d'Horreur Québec. Fait que moi, je dirais qu'on part avec ça. C'est la chronique actualité, mesdames et messieurs. Ouh. Et tout ça avec Horreur Québec. On va y arriver. À la longue, là, on va y arriver.
Ah, moi, je veux tout le temps que tu le laisses, la petite finale. C'est ce que je
préfère. Parfait.
Hey, les gars, ça va bien? Est-ce que vous avez... On revient d'un week-end de la Saint-Patrick. Est-ce que vous avez fêté peu ce week-end?
Pas tant.
Non.
Moi, du tout.
On n'a plus l'âge d'aller fêter la Saint-Patrick dans les rues de Montréal.
Hey, en fait, je peux même lancer un scoop. Parce que ce week-end, moi, j'étais occupé. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je le fais pareil. Il va y avoir un court documentaire, un mini-documentaire pour la plateforme de l'application téléphone de Urbania qui est filmée chez moi. Pour autour de ma collection de VHS et moi en tant que collectionneur. Donc, c'est en partie un historique du VHS et en partie un portrait de moi en tant que collectionneur.
Mais c'est bien hot.
Moi, fait qu'évidemment, on va mentionner les oubliettes dedans. Je nomme Olivier.
Mais quand est-ce qu'on va pouvoir...
Je suis pas certain, parce que là, le tournage de ce week-end, ça va se monter, ça prend du temps. Je pense que c'est supposé sortir seulement en mai, puis ça va sortir seulement sur les applications, mais il va y avoir des capsules de suppléments sur la page Facebook aussi. Mais ça, je veux pas rien spoiler, je vous dis pas qu'est-ce qui va être quoi. Il y a quand même une couple de punch le fun, mais je pense que c'est un beau projet. Puis je dis pas ça parce que je suis dedans, mais juste.
Mais qui je veux rien spoiler ce beau projet.
Ben ça donne que c'est ma copine.
Ah.
Mais fait que c'est son projet. Je ne suis que son esclave. Je suis son outil. Mais c'est ça, c'est son projet. Ça va s'appeler d'ailleurs VHS Mon Amour. Donc elle fait partie aussi du doc. C'est un peu ça. C'est elle en tant que ma copine qui parle de son chum qui collectionne des VHS. Pourquoi?
J'ai trouvé une belle robineuse à ce que j'ai vu.
Oui, j'ai trouvé une robineuse à vidéocassette. Donc, mauvaise traduction de rembobineuse. Une robineuse à cassette. Puis il est beau, puis il fonctionne. Fait que, ouais. Mais excusez, je voulais pas couper les nouvelles, mais oui, bon, c'est un petit scoop.
Ben, bravo, écoute.
On verra ce que ça donne.
J'ai hâte de lire ça. Puis là, moi, je vous parlais de la Saint-Patrick parce que quand on parle de la Saint-Patrick, on parle de...
Leprechaun.
Ah, ben oui.
Ben oui.
Exactement.
Évidemment. Quoi d'autre?
En fait, il y a le réseau Sci-Fi ce week-end qui a profité des festivités de la Saint-Patrick pour annoncer qu'il y aurait une nouvelle suite au film Leprechaun.
Ouais. Attendu.
En français, l'abominable lutin.
Oui.
Dont on se souvient. En général, ben ce genre de nouvelles-là, moi, ça me laisse plutôt froid.
Ouais, moi aussi.
Mais c'est les noms qui sont rattachés à cette production-là qui sont particulièrement intéressants. En fait, on parle du réalisateur de The Void qu'on a vu en 2016. C'est un gars qui vient de Astron 6, la gang de gars qui ont fait The Father's Day, The Editor, blablabla. Moi, c'est des films qui me parlent. Fait que là, je suis comme intéressé là. Puis en fait, on parle pas parce qu'on se souvient que les suites de Leprechaun ont été assez médiocre. Merci. Je sais pas si vous les avez.
Il s'est ramassé dans l'espace.
Oui, je sais. Puis tout le monde s'est ramassé dans l'espace.
En 2014, ils ont même essayé de faire un reboot qui est passé complètement dans le beurre. Moi, j'ai même jamais pu mettre la main sur ce film-là. Je sais pas s'il existe à quelque part.
Il n'y a pas eu Leprechaun in the Hood aussi.
Oui, il y a eu In the Hood, il y a eu Back to the Hood. Il y en a eu quelques-uns.
Ça n'a pas rapport pour vrai. Là.
Mais là, on revient aux sources parce que cette suite-là va ignorer toute cette poutine de Back to the Hood. Oui, c'est ça, parce que, bon, en fait, le film se passe 25 ans après l'original, en fait. Puis je tiens aussi à préciser que c'est scénarisé par la fille qui écrit Ash vs Evil Dead.
Okay.
Fait que là, tu sais, c'est des gens aussi qui sont un peu capables de jouer, de la jouer pas trop sérieux. Ouais. Tu sais, fait que ça peut donner quelque chose de vraiment amusant à regarder. Là, je pense que en tout cas, ça m'allume un peu plus. Là.
Mais si on pense à The Void puis justement à Ash vs Evil Dead.
Ouais, c'est ça.
Je m'attends à quelque chose de comique, on s'entend, oui. Et gore.
Trash, puis beurré, épais. Là.
Puis on a vu, il y a eu une image du Leprechaun qui est pas mal plus creepy que le petit nain, là.
Oui, parce qu'en fait, l'acteur original...
Personne de petite taille, je m'excuse, j'ai dit nain.
L'acteur original, qui était Warwick Davis,
oui.
Qui il reprend pas son rôle, là. C'est un nouveau abominable lutin qu'on va pouvoir voir. Donc, juste le...
Tu penses qu'il y a une volonté de réinventer l'histoire?
Non, absolument
peu,
pas. Non, hein? Non, absolument pas, je pense okay. pas. Parce que ça se passe, donc, comme je disais, 25 ans plus tard, puis mm-hmm. on a une équipe de sorority, des filles de sororité, là. Je sais jamais comment le dire en français, vraiment. C'est pas notre culture au Québec.
Des cochons, je pense.
Des étudiantes.
On va se le dire en termes de cinéma d'horreur. Dès qu'on parle de sorority babes, c'est une bande de cochons sexy, là. On parle pas de la réalité, là. On parle de série B.
Ces filles, ces gentilles filles,
ces étudiantes
veulent se construire une nouvelle maison de sorority et doivent détruire un chalet qui se trouve sur leur terrain.
Mm-hmm.
Et puis ça se trouve à être l'ancien chalet du Leprechaun.
Okay. Ah oui, parce que le Leprechaun avait un chalet d'été. Il peut pas toujours être en train de tuer des ados.
Si on se souvient bien, dans le premier film, il finit dans une boîte en bois.
Ah oui, c'est ça.
Puis il suffit de mettre un trèfle à quatre feuilles sur cette fameuse boîte-là qui scelle le tout d'un maléfice qui le... Bon. Et puis, eux vont...
voilà. C'est correct. On a compris.
Eux vont détruire ça, évidemment, en construisant leur maison. Donc, le Leprechaun va se retrouver encore.
Oui, parce qu'on va se le dire, un trèfle à quatre feuilles, c'est assez léger. Donc, un bref coup de vent et c'est fini. C'est il est libéré.
Puis, il y a Pepe Sonu God, Ash vs. Evil Dead, aussi, qui fait partie de la distribution. Et surprise, il y a l'acteur Mark Holton qui incarnait le rôle de Ozzy dans le premier film qui revient pour faire son rôle encore. Je sais pas si vous souvenez, c'est celui qui faisait
un petit peu retardé,
qui était un petit peu simplet, le fou du village.
Le fou du village, c'est bien dit.
Ça l'a pète en jean, monsieur.
Fait que non, ça sera pas. Okay. Je pense que ça va être un peu comique. Là, comme,
je pense
que
ça va être plus hommagé que d'autres choses. Ouais.
On a Rob Zombie aussi qui revient à la charge avec une suite pour The Devil's Reject, 13 ans plus tard.
Donc, je me demande c'est quoi l'intention. Mais j'ai hâte de voir ce que tu vas me dire.
Ils sont morts, je veux dire, ils sont tous morts.
Oui, non, mais c'est ça. Vas-y, Marc.
Ben, en fait, on ne sait pas c'est quoi l'intention encore.
Attends, il en avait parlé déjà. Il n'a pas dit que ça serait un prequel? Il a dit en entrevue à un moment donné qu'il pensait faire un prequel.
Il a peut-être espéré
que c'est disparu dans l'air ou c'était une théorie.
Je pense que c'est une théorie parce qu'il n'y a rien d'officiel encore sur le sujet.
Okay.
En fait, tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que le tournage a repris le 13 mars dernier, donc la semaine dernière.
Mm-hmm.
Puis les acteurs originaux, donc Sid Haig, Bill Moseley, Sharon Zombie, sont de retour.
Très grande actrice.
Oui.
Come on, les boys.
J'aimerais ça me situer parce que je connais pas votre opinion sur l'homme.
Moi, je l'aime beaucoup.
Tu l'aimes beaucoup, toi?
J'aime pas tout ce qu'il fait, par exemple.
Zombie, House of 1000 Corpse, quand j'avais vu ça dans le temps, j'ai pas aimé. Okay? Mais j'ai beaucoup aimé The Devil's Reject.
Okay.
J'ai apprécié Halloween, le remake.
Ah ouais.
L'original est là.
Ça touche pas l'original.
Mais,
voilà.
Je ressors de là. Je suis bon, ben ok. Puis le deuxième, je suis un des rares qui l'avait apprécié. Mais pour la scène de l'hôpital, scène de l'hôpital du début, pour cette scène, j'ai trouvé que la scène de l'hôpital au début, clin d'œil au deuxième original.
Ouais.
Mais sinon, non, c'est pas un très bon film. Lords of Salem, je dirais que c'est un
beau
vidéoclip. C'est
ben,
beau,
c'est
mais...
du hard house. C'est ça du hard house.
Il
c'est
va
du
chercher
cinéma
quand même des acteurs. Il était Judy Geeson qui a joué dans Inseminator et tous des classiques Dee Wallace. Puis sinon, 31, j'ai vraiment pas aimé ça.
Non, moi non plus.
Donc,
ben, je pense pas, que je suis un peu
pas,
comme Olivier.
Je suis un fan puis je respecte
moi,
ça.
Je pense que
je suis un peu comme Olivier, justement. Okay. C'est ça. C'est-à-dire que je l'aime beaucoup, le gars, mais son cinéma, il est pas tout bon. Là.
Okay.
Mais je suis toujours à l'affût. J'ai toujours hâte de voir ce qu'il va faire next en espérant qu'il va regagner mon cœur des premiers films qu'il a fait. T'sais.
Moi, juste pour me donner ma position aussi sur le sujet, là, moi, à chaque fois que je regarde un film de Rob Zombie, je ressens un profond malaise.
Ah ouais, à ce point-là. Hein?
J'essaie à chaque fois. Le seul que j'ai pas vu, c'est Halloween 2 parce que.
Tout le monde l'a ici.
Parce que on m'avait dit, écoute, ne fais pas ça à ta vie. puis un jour, je le ferai. Là.
Juste pour les 10 premières minutes, l'hôpital.
Il y a du bon, c'est juste que c'est mélangé avec bien du pas bon.
Il y a Daniel Harris. Moi, je suis un fan de Daniel Harris. Fait que tout ce qu'elle fait, même ses films de boboche, je les regarde parce qu'elle est dedans. Ben oui.
Ah, on est rendu tellement difficile.
Ouais, j'aimais tellement quand j'étais petit, oh my God.
Mais j'ai l'impression qu'avec Rob Zombie, on le juge durement. On met la barre toujours plus haute qu'avec d'autres, par exemple. J'ai cette impression-là.
Peut-être.
Mais bon, c'est pas grave. La suite s'en vient.
Bref, il y a des nouveaux acteurs aussi qui se sont confirmés. On va dire que le titre du film est Tree from Hell, maintenant, de cette suite à The Devil's Reject. Mm-hmm. Il y a l'acteur Austin Stalker, qu'on a pu voir dans l'original Assault on Precinct 13 John Carpenter, qui se joint à la distribution. Puis, tu parlais de Dee Wallace aussi tantôt. Elle aussi joint la distribution du film cette semaine. Donc, à chaque jour, je pense, si vous êtes sur Instagram, à chaque jour, allez voir parce qu'il y a une nouvelle annonce sur le compte de Rob Zombie pour le tournage.
OK.
Donc, il y a aussi James Wan en ce moment qui... Ben, pas en ce moment, mais donc qui va produire un nouveau slasher exclusivement pour Netflix.
Oh!
Donc, en fait, James Wan, bon, c'est le créateur pour ceux qui connaissent peut-être pas le nom, c'est le créateur de la franchise Saw, Insidious et The Conjuring, qui joint, en fait, c'est sa maison de production, Atomic Monster, qui joint celle de 21 Laps.
OK.
Donc, deux maisons de production ensemble. 21 Laps, eux, sont connus pour avoir produit de Stranger Things.
OK.
102. donc, en fait, il y a quelque chose qui se passe ici. Puis, c'est une adaptation du roman du best-seller, en fait, There's Something Inside Your House. En fait, pardon.
Trouve tes mots.
Oui, excusez. On a affaire à une fille, en fait, une adolescente qui est envoyée. Bon, elle se trouve à Hawaï avec ses parents, puis est envoyée aux États-Unis vivre un peu reclus chez sa grand-mère, puis donc nouvelle vie, nouvelle école, nouveaux amis, nouveaux petits copains. Puis ses nouveaux amis se trouvent à décéder dans des circonstances étrange un à un.
Okay.
Donc, c'est un peu le synopsis du livre. On parle d'un croisement entre les slashers des années 80-90 à celui du Breakfast Club de John Hughes.
OK. Donc, c'est intéressant.
Donc, oui, c'est ça. On suit le développement
c'est
de ça.
C'est un film, c'est pas une télésérie. C'est vraiment
non, c'est
film.
Vraiment un film
okay.
qui va être exclusif à la plateforme de Netflix.
Puis, moi, je te dirais, le temps s'écoule vite.
Oui.
Fais-nous une dernière nouvelle, puis dernière on va enchaîner. Nouvelle. Sinon, on va manquer de temps encore pour ta chronique pour laquelle t'es là aujourd'hui.
OK. Ben rapidement, je vous parle d'American Horror Story parce que la 8e saison de la série que tout le monde aime beaucoup est présentement en production. Donc, il y a le créateur Ryan Murphy qui annonce aujourd'hui que Katie Bates est de retour dans la série. Donc, c'est une excellente nouvelle pour les fans. Katie Bates qui interprétait aussi pour les gens
Misery,
blablabla.
Ouais.
Donc, qui revient aux côtés de Sarah Paulson, qui elle est une habituée de la série, qui avait déjà été confirmée. Mm-hmm. Et puis, Evan Peters, qui a été également confirmé aujourd'hui, qui est un habitué, qui a été dans toutes les saisons. Mm-hmm. Mais pour Bates, là, c'était un peu une surprise parce qu'elle n'avait pas été dans Cult la dernière saison. Donc, on espérait beaucoup. Puis, les rumeurs veulent que ça va s'intituler American Horror Story Radioactive. Ça n'a pas été encore confirmé pour le moment. Tout ce qu'on sait, c'est que ça se déroule dans un futur rapproché. On ne connaît pas encore non plus la date de diffusion, mais là, tout ça devrait évoluer assez rapidement dans les prochaines semaines.
Moi, je m'attends toujours à leur saison surprise. Hein, t'es au courant?
Non.
Ryan Murphy, à un moment donné, un petit peu comme si...
Ah oui, oui.
Tu sais, Beyoncé, à un moment donné, qui avait droppé son album. Oh my God, Beyoncé! Bon, ben lui, il y a vraiment... C'est vrai, là, c'est fondé qu'il y a une série surprise qui va... tomber à un moment donné comme ça, sans annonce, qui vient rejoindre la saison 3 de Coven.
OK.
Ouais, puis Renault qui était supposément, j'ai un ami qui théorie là-dessus, mais comme vraiment Brian Murphy avait fait une annonce qui était pour avoir une saison surprise qui va apparaître de nulle part à un moment donné.
Ah, bon, on verra bien. Merci beaucoup pour ces nouvelles.
Merci.
On va prendre une minuscule pause musicale, puis on vous revient avec une autre chronique de moi, parce que, tu sais, moi aussi, j'aime ça parler. Non, OK, Mayen.
On le sait.
On va écouter Ghoul Tango, Route 66 Killers.
Revenge of the Cheerleaders will show you why we're the team that everybody wants to make. We know the best way for our team to get ahead is for them to get a little behind. And that's what we're here for. So if you want to see the girls who put the high in high school and the last in your life, come check out Revenge of the Cheerleaders. We're everybody's favorite student bodies. Revenge of the Cheerleaders, rated R.
Oh yes, aujourd'hui, moi... Ouais, qu'est-ce qu'il y a?
C'était mettre Revenge of the Cheerleader.
Oui. Quoi?
Je pense pas à ça. Oh, Seigneur.
T'es con.
Je t'aime.
Moi, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cinéma anarchiste. Puis en écrivant ma chronique, j'ai réalisé, tabarnak, je suis vraiment intellectuel aujourd'hui. Fait que je vous le promets, après, ça arrivera plus. Non, non, on verra. Mais bon, j'ai goût de parler de cinéma qui réinvente à sa façon, la manière de réaliser des films, la manière de voir le cinéma, et qui révolutionne en quelque sorte le regard et l'analyse du septième art. C'est pas un secret, le but du cinéaste est de berner le public, lui faire croire à l'incroyable, à l'impossible, pour le plonger tête première dans des histoires qui se peuvent pas, mais en tentant du mieux qu'on peut de lui faire croire que c'est possible. Hein. Donc transformer par le biais d'effets spéciaux, de filtres, de personnages auxquels on s'attache, de musique et de maquillage, transformer l'extraordinaire en ordinaire. Tout ça pour nous faire croire à l'impossible. Donc, empiler des couches et des couches de mensonges et de supercheries pour faire croire aux spectateurs que ce qu'ils voient est vrai, pour qu'ils s'abandonnent au divertissement finalement, et le fassent voyager, lui faire vivre des aventures et des émotions qu'il ne côtoie jamais dans sa réalité. Donc, manipuler la vérité pour que tu l'avales goulûment et que tu en redemandes. Donc, on peut dire que la fonction ultime du fabricant de films est de vendre du rêve, hein, donc de l'intangible. Fabriquer une illusion de réel, donc berner le spectateur. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que c'est de ça dont nous devrions être fiers? Donc, c'est ce que 100 ans de cinéma nous ont donné, des effets spéciaux, de la tromperie, où est la place de la réalité dans le cinéma d'aujourd'hui? Donc, même le documentaire peut être stagé, le fake news pleut sur nos crânes innocents. À travers toutes ces illusions de réalité contrôlée, on vient qu'on s'y perd. Et c'est dans cette optique, cette analyse de l'évolution du cinéma depuis les débuts, que voit le jour, en 1995, un manifeste connu comme le Dogme 95. Donc, le Dogme 95, c'est un mouvement cinématographique qui a été lancé par des réalisateurs danois sous l'impulsion de Lars von Trier et Thomas Vinterberg. Le manifeste a été écrit à Copenhague en mars 1995 et les deux premiers films à naître du mouvement sont en 98, donc Festen, réalisé par Thomas Vinterberg, et Les Idiots, réalisé par Lars von Trier. Donc, Hein, vous avez déjà entendu parler du Dogme, probablement. Sinon, on va le découvrir ensemble. Lars von Trier est quand même un gros réalisateur. C'est sûr qu'on s'éloigne du cinéma de genre qu'on fait normalement ici, mais je trouvais que c'était un mouvement qui était important à jaser ici, un moment donné, ce moment donné-là est aujourd'hui. Donc, par la, suivant ces deux films-là, donc il y a eu toute une pléthore de films qui se sont joints au mouvement. Mais quel est l'objectif du mouvement Dogme 95? C'est lancé en réaction aux superproductions et à l'utilisation abusive d'artifices, d'effets spéciaux qui aboutissent à des produits très formatés, trop lichés et impersonnels. Le but du Dogme 95 est donc de revenir à une sobriété formelle plus expressive, plus originale et donc jugée plus apte à exprimer les enjeux artistiques contemporains. Ces films sont dépouillés de quelconque ambition esthétique duquel découle donc un style très réaliste, beaucoup plus brutal, nerveux même, souvent en caméra à l'épaule ou même avec beaucoup d'improvisation. En bref, le but est de ramener le cinéma à son plus simple apparat, enlever tous les effets spéciaux, tout ce qu'on dit entre gros guillemets radiophonique, arranger avec le gars des vues pour offrir un film plus réaliste, plus déroutant, honnête et sans artifice. Donc, le Dogme 95 combat les films illusionnistes par un ensemble de règles indiscutables. Donc, on peut pas déroger de ces règles-là si on veut faire un dogme. Cette liste-là se veut le vœu de chasteté. Ça se dit le vœu de chasteté du Dogme 95. Donc, pour qu'un film soit considéré comme un dogme, il doit obligatoirement respecter cette liste de règles très strictes. Et donc, en voici les règles en question, traduit directement du manifeste original. Donc, le tournage 1. OK, bon, premier point. Le tournage doit être fait sur place. Les accessoires et décors ne doivent pas être apportés. Et entre parenthèses, si on a besoin d'un accessoire particulier, choisir donc un endroit où cet accessoire est présent. 2. Le son doit être produit en même temps que les images, donc, et inversement. Donc, aucune musique ne doit être utilisée à moins qu'elle soit jouée pendant la scène où elle est filmée. 3. La caméra doit être portée à la main. Donc, caméra à l'épaule, tout mouvement ou non-mouvement possible avec la main est autorisé. Le film, donc, ne doit pas se dérouler là où la caméra se trouve. Le tournage doit se faire là où le film se déroule. 4. Le film doit être en couleur. Un éclairage spécial n'est pas acceptable. Entre parenthèses, s'il n'y a pas assez de lumière, la scène doit être coupée ou une simple lampe attachée à la caméra. 5. Tout traitement optique ou filtre est interdit. Donc, no filter all the way. Hashtag no filter. Le film ne doit pas contenir d'action superficielle. Ça, je trouve ça un peu particulier, puis je trouve que il manque d'explication. Mais je vais le mentionner un peu plus tard aussi. Donc, pas d'action superficielle, et entre parenthèses, tout ce qui est mentionné, c'est les meurtres, les armes, etc. ne doivent pas apparaître. Je trouve que c'est une drôle d'optique, là, mais en tout cas. 7. Les détournements temporels et géographiques sont interdits. Donc, le film se déroule ici et maintenant. 8. Les films de genre ne sont pas acceptables. Là, oui, nous, en studio, on pleure en ce moment. 9. Le format de la pellicule doit être le format académique 35 mm. 10. Le réalisateur ne doit pas être crédité. Donc, et le manifeste se termine comme ça. De plus, je jure en tant que réalisateur de m'abstenir à tout goût personnel. Je ne suis plus un artiste. Je jure de m'abstenir de créer une œuvre, car je vois l'instant comme plus important que la totalité. Mon but suprême est de faire sortir la vérité de mes personnages et de mes scènes. Je jure de m'y employer par tous les moyens disponibles et au détriment même de tout bon goût et considération esthétique. Et ainsi, je fais mon vœu de chasteté. Copenhague, lundi 13 mars 1995, au nom du Dogme 95. Donc, ça, c'est le manifeste. Depuis la sortie du manifeste, on a eu environ 50 longs métrages qui ont été étiquetés Dogme. Aujourd'hui, c'est une mode qui est un peu abandonnée. Là, ça se fait plus tellement. Mais on a quand même une collection d'une cinquantaine de métrages. Avant d'enchaîner, j'aimerais ça connaître votre opinion, les boys, sur le cinéma Dogme. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement-là de manière générale, là?
Tu veux t'y aller ou...
En fait, c'est un mouvement que je connais
Juste un peu.
Un peu. Je connais la pointe de l'iceberg. En fait, je pense qu'on connaît tous aussi le cinéma de Lars von Trier qu'on a vu. On a tous vu Dogma avec Nicole Kidman, blablabla. Ouais. Puis, je me souviens aussi que quand Dogma est sorti, bon, c'était beaucoup dans l'air du temps, là, le discours du dogme, tout ça. Fait que c'était très intéressant. Mais je trouve aussi que le film Dogma est une œuvre excessivement puissante, puis que j'aime revisiter là de temps en temps. Donc puis c'est fascinant aussi de voir parce que c'est Dogma, c'est la traduction vraiment littérale de des règles que tu viens de d'énumérer. On se souvient, il y a pas de décor, tous les murs, c'est indiqué par terre, il y a comme des marques au craie, c'est ça.
Mais je cherchais qu'est-ce que tu voulais dire par Dogma, le titre du film en question, c'est Dogville.
C'est Dogville.
Dogville, 2003.
Dogma, c'est le film avec Alanis Morissette.
Le film avec Morissette.
Mon Dieu.
C'est correct. Dogville, donc.
Moi aussi, je pense Dogville.
Puis c'est drôle parce que j'ai revu la pochette récemment, puis parce que je me suis dit ah, faut que je le revoie parce que je l'ai oublié tout ça. Puis
une suite après ça, hein.
Avec Manderley 2005,
Bryce Dallas Howard qui jouait dedans là.
Puis ça c'était le genre de film aussi où les gens ont détesté justement ben là, il y a pas de décor, il y a pas de détails. Fait que faut que tu t'embarques ou t'embarques pas, mais quand tu concentre sur le scénario, le jeu des acteurs, parce que c'est que le jeu des acteurs, finalement, c'est excessivement intéressant. Ceci dit, je ne peux pas parler pour les autres.
L'ensemble des dogmes.
J'ai pas tout vu moi non plus.
Moi, j'en ai quand même vu quelques-uns. Je te dirais, je crois, en tout cas, le meilleur que j'ai vu. Si je rentre dans cette catégorie-là, ça va rester Dancer in the Dark.
Ce n'est pas un dogme.
C'est borderline, mais...
Ben, c'est dans le style, parce qu'on va se le dire, c'est le style de base de Lars von Trier. Mais ce n'est pas un dogme officiellement.
Mais ça, bon, Julian Donkey Boy...
Julian Donkey Boy, Harmony Korine. Oui, c'est vrai.
Mon Dieu...
Mais j'ai regardé la liste, puis j'ai réalisé que j'en connaissais pas tant que ça. Il y a beaucoup de réalisateurs internationaux aussi qui se sont lancés dans le dogme, qu'on connaît moins ici, ou peut-être que c'est juste parce que c'est pas notre milieu de cinéma, on va se le dire. Mais il y a beaucoup à découvrir, je dirais, dans le genre.
Elephant, c'en es-tu un?
Non, mais faut pas oublier un détail. C'est pas parce qu'un film va suivre, peut-être des fois même par hasard, certaines de ses règles, que ça devient un dogme. Je vais être franc, les films qui sont officiellement des dogmes, ils s'en vantent. C'est écrit sur la pochette, puis ils sont bien fiers de nous le dire. Donc, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de films qui peuvent s'approcher de très près au genre. Ça, on peut pas le nier. Mais bon, tout ça m'amène à vous parler du film Les Idiots, donc premier dogme réalisé par Lars von Trier. Lars von Trier, on en a parlé déjà un peu. C'est lui qui a réalisé aussi Breaking the Waves en 96. Dancer in the Dark en 2000, qui est probablement je sais qu'il fait pas l'unanimité, mais moi c'est dans mon top 50. Je l'aime, ce film là c'est top 50 à vie, puis il sera jamais détrôné. Antichrist en 2009 et Nymphomaniac en 2013.
Mancolia aussi, que j'ai adoré.
Oui, c'est vrai, ben oui.
Donc, bon Québécois décalisé.
Pour parler des idiots, je vais sauter la partie des comédiens parce que ça apporte rien au propos de ma chronique. Mais le synopsis de Les Idiots, c'est simple. C'est un groupe de jeunes en marge de la société qui confrontent les valeurs de la société justement en jouant les débiles mentaux dans la vie de tous les jours. Ils feignent d'être des idiots pour dépasser les limites de l'acceptable. Karen rencontre par hasard trois membres du groupe et devient involontairement impliquée dans leur petit jeu. Donc, c'est pas un film facile a priori, on va se le dire. C'est tourné comme un documentaire, l'image est brute, presque amateur. La caméra est à l'épaule, elle suit les comédiens à bout de bras, continuellement en mouvement, et aucun travail ou effort est mis sur l'image ou le son. C'est ça le dogme. Donc on a filmé des moments parfois improvisés et le film est livré tel quel au spectateur, peut-être plus comme un témoignage que comme une œuvre en soi. Ce que von Trier nous offre ici, c'est un peu comme de la fiction réalité. Une réalité si présente qu'elle en devient presque insupportable par moments. C'est lourd à porter. Bien souvent, on voit le cinéma comme une fuite, mais ici, c'est plutôt comme une immersion dans un univers sans aucun maquillage. Donc, nos protagonistes passent la majeure partie de leur journée à se comporter comme des malades mentaux, selon leur dire, pour laisser libre cours à ce qu'ils nomment, eux, leur idiot intérieur. Ils jouent les idiots à la maison, mais aussi dans les lieux publics. Mm-hmm. Un jour, une femme brisée qui vient de perdre son enfant, donc, comment je la... c'est quoi, c'est Karen, c'est ça? Elle va rencontrer de ces idiots et va décider que, peu à peu, de partager leur quotidien, d'abord par curiosité, puis par fascination. C'est par le regard de cette femme, donc, que le spectateur va entrer dans le fameux groupe. Bien sûr, le groupe d'idiots explique leur comportement avec plein de messages sociaux, une critique acerbe du système capitaliste, une tentative de rompre les codes sur lesquels est bâti le corps social, une volonté d'inventer un bien-être propre à chaque individu, bla bla bla. Mais au-delà de ces explications, il nous vient plusieurs questions beaucoup plus humaines qui sont d'ailleurs posées par cette femme, Karen, le personnage principal, comme par exemple, peut-on imiter les malades mentaux? Comment coexister dans une communauté dont le développement est anarchiste? Parce que dans l'anarchie aussi peut ressortir une certaine compétition. Plusieurs défis d'ailleurs sont lancés par les membres du groupe et très durement sont jugés ceux qui ne les réussiront pas. Comme dans toute tentative d'anarchie, donc la violence refait vite surface sous la pression de la domination. Mais bon, hein, ce n'est qu'une constatation et au final, ça représente pas l'essentiel du film. C'est avant tout un film qui parle de frontières. La frontière entre soi-même et le corps social, c'est codes et ses valeurs. La frontière entre notre raison, nos aspirations et notre folie réelle. Le film démontre la difficulté de s'évader des codes sociaux et on peut pas nier la force des images dans le film Les Idiots. On a un professeur, par exemple, qui tente de se mettre à dos ses élèves. On a une femme mimant la folie devant toute sa famille. La force des images, on n'a pas vu ça souvent. Le malaise est à couper au couteau. C'est un film de transgression. Je dirais même presque le film de presque le film de toutes les transgressions parce que elle prend plusieurs formes dans le propos. Autant dans ses images que dans l'histoire, dans ce qui se passe dans ses personnages. Par exemple, et ça va me permettre de préciser que c'est un film 18 ans et plus.
Oui,
là,
effectivement.
Dans une scène, les faux idiots donc commencent à s'exciter et à se tripoter en malades mentaux. Là, ils sont pas dans un lieu public, ils sont dans leur maison, leur commune.
Leur commune, oui.
Puis là, ils commencent à jouer le malade mental en tripotant une boule d'une, tu sais, comme si c'était un propos de malade mentaux qui expérimente. Puis finalement, ça va aller jusqu'à exploser en orgie de déficients. Et compte tenu du mandat d'un dogme, on voit tout.
Oui.
On nous cache rien. Ça va même un peu trop loin et on a droit aux pénétrations en gros plan. Mm-hmm. Donc là, à vous de vous faire votre propre idée là-dessus. Je vais être franc, moi, c'est là que je décroche un peu. Parce que dans le dogme, on dit de ne pas montrer d'action superflue, comme je disais tantôt. Donc, on ne montre pas de meurtre, pas d'armes à feu. Mais tu peux montrer une pénétration en gros plan quand, on va se le dire, ce n'est pas nécessaire. Mmh. Donc, moi, ça, c'est... Je me questionne un peu. Il se gêne pas pour montrer ça. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Ça reste un cinéma très expérimental, on va se le dire. Mais, mettons, si on regarde le premier film, c'est quoi le titre déjà? J'ai ça pas loin. Excusez-moi. Voyons. Ben, le premier... je le trouve plus, j'ai un blanc, là. Le premier film de... Ah, Festen, c'est ça. Festen, en 98, le premier dogme de Thomas Vinterberg. On se rappelle qu'un des règlements est de filmer en 35 mm. Pour le premier dogme de Vinterberg, il a pourtant pas tourné en 35 mm, mais en 16. Donc là, j'ai l'impression qu'ils jouent beaucoup avec leur propre règlement, comme s'ils l'avaient écrit pendant qu'il était chaud, puis rendu sur le plateau, ils réalisent que « Ah ouais, mais moi je veux faire ça, puis bon. » Mais bon, ça, ce n'est qu'une opinion personnelle. Il reste que, vous êtes avertis, on a quand même des pénétrations en gros plan. Regardez pas ça avec vos enfants. De toute façon, je pense pas qu'ils vont apprécier les idiots. Donc, une seconde réflexion que transpire le film est la frontière entre la raison et la folie. Donc, on se questionne, qu'est-ce que vivre? Est-ce penser? Est-ce sentir? Qu'est-ce qu'être soi-même? Puis ça, c'est une question que j'aime beaucoup dans ma vie de tous les jours. Tu sais, comment dire? Tu sais, mettons, tu imites quelqu'un. tu te fais un personnage, puis là t'es avec des amis, puis tu te fais un personnage. Moi j'ai une question souvent, tu sais, comment puis-je ne pas être moi-même? Parce qu'à travers ce personnage-là, c'est quand même moi qui le fais, c'est quand même ma version du personnage. Au final, ça reste moi.
Ça s'appelle de l'acting.
Mais il reste que comment puis-je ne pas être moi-même? Il y a des professionnels de l'acting, bien entendu. Mm-hmm. Là, on parle d'être. Hein? Un être humain en soi, là, être. Comment puis-je ne pas être moi-même? Parce que même en tentant de faire l'exact contraire de ce que tu es, il reste que c'est toi, parce que c'est ta décision, ton optique, ton opinion de ton exact contraire. Donc, ça reste toi. Donc, bon, là, j'extrapole, c'était pour expliquer la question. Donc, qu'est-ce qu'être soi-même? J'aime beaucoup cette question-là et il n'y a pas de vraie réponse à ça. Mais bon, au final, les idiots offrent une réflexion sur la nature même du jeu, hein, comme tu dis, hein, de l'acting.
Ouais.
Donc, le jeu d'acteur, mais aussi notre jeu dans nos vies. C'est là que je voulais mixer les deux. Donc, est-ce que jouer, c'est être une autre personne ou être soi-même? Les idiots proposent que peut-être c'est en étant quelqu'un d'autre qu'on se retrouve le mieux et qu'on apprend à se connaître mieux. Donc, malgré le plaisir qu'on peut avoir à regarder les idiots, un spectateur qui cherche du confort ne va pas, probablement pas, apprécier tant que ça le film Les Idiots. Mais si vous êtes en quête d'un film intelligent de réflexion qui brasse par moments, ça pourrait vous plaire. C'est un genre à découvrir. Si vous avez jamais vu de Dogme, je pense que Les Idiots, c'est une belle immersion, mais une immersion quand même
accessible.
Accessible, mais qui va te brasser quand même. Mm-hmm. À sa façon, si on est capable de s'y abandonner, parce qu'on va se le dire, c'est quand même un film en quelque sorte intellectuel à travers ces faux malades mentaux. Il y a quand même une réflexion à porter. Puis je pense que c'est pas tout le monde qui aime réfléchir en regardant un film, là, hein? C'est pas un film de fuite, comme je dis, c'est un film d'immersion. Mais je vous invite à découvrir le cinéma de Dogme. C'est quand même intéressant, c'est fascinant. Un cinéma anarchique, un cinéma différent, si vous l'avez jamais fait. Vous pouvez trouver la liste des Dogmes facilement sur Internet. Je vous invite à découvrir le genre. C'est quand même très intéressant à découvrir des films dépouillés de tous effets spéciaux ou quelconque lichage. Bon, je ferai pas des chroniques intellectuelles de même trop souvent, mais je trouvais que c'était un sujet qui était important à porter et malheureusement, ça se décrit pas comme un film de monstres atomiques des années 50.
Non, malheureusement, non.
On va prendre une autre mini-pause musicale avant de revenir avec la suite de la fameuse chronique de les sorties horreurs 2018 qu'on avait commencé avec Marc au début de l'année et que, ouais, coupé dans le temps, on avait dû couper beaucoup. Là, je regarde, il nous reste 20 minutes. Hey, j'espère qu'on va... J'ai l'impression que ça va être en trois parties.
Mais écoute, en plus, j'ai rajouté des titres, fait que... ça se peut que...
Je pense qu'on va te faire revenir encore et encore. On va trouver un moyen, mais en tout cas, on va faire une mini-pause musicale et on vous revient tout de suite après avec ça. I kissed your lips and I tasted blood. I asked you what happened, then you said there'd been a fight.
But I'm that you love me and you never do lie. And you fight for my honor, but I just don't know why. You fight for my honor and I don't understand. But hold on, your honor, I'll get eyes for your...
Salut Simon.
Écoute, wow. Hey, on était à la fin de la toune. C'est à toi dans 5, puis là la toune a fade out.
Il essuyait ses petits yeux.
Allô. C'était génial, ça.
Écoute, avant qu'on aille à la pièce, je te dis que j'ai ajouté des titres parce que, évidemment, ils s'en ajoutent toujours au fil des semaines. Maintenant, avec la vidéo sur demande aussi, les films vont de moins en moins en salle. Ils sortent sur Netflix en coup de théâtre. Fait que, des fois, cette liste-là, des 20, elle s'allonge. Fait que, il y a des titres que j'ai pas le choix d'ajouter puis parce que je veux t'en parler. Mais, c'est pas grave si on la segmente encore. Ce que je voulais te dire, c'est que cette semaine, donc le 23 mars, vendredi, c'est la sortie de Unsane, qui est quand même assez attendu, le nouveau film de Steven Soderbergh.
Ouais.
Donc, il a réalisé Trafic, Solaris, des films qui est quand même assez apprécié.
Ben oui.
Je t'en parlerai pas de long en large parce que je sais que vous en avez parlé avec Eric la dernière fois. Tout ce que je voulais te dire, c'est que on a eu la chance de voir le film, donc il y a Josiane dans notre équipe qui a vu le film en première la semaine dernière. Sa critique est prête. On n'a pas le droit d'en parler avant vendredi matin. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est réservez-vous du temps dans votre week-end, peut-être, pour aller voir Unsane.
Moi, je suis quand même hype. Très hype de voir ce film-là.
Ouais, puis il y a un peu des critiques qui ont le droit aussi de sortir, donc juste pour vous dire, le retour est excessivement positif pour ce film qui est, soit dit en passant, entièrement tourné au iPhone.
Oui, en plus, hein?
Hey, ouais. Moi, ça se passe dans un hôpital psychiatrique, fait que je suis vendu.
Oui, on aime ça.
Moi, j'ai une obsession avec ça. Là.
Le prochain film qu'on surveille de proche, ça s'appelle A Quiet Place. Ça sort le 6 avril prochain, donc dans deux semaines.
Dans 2 semaines, oui.
C'est un film de John Krasinski.
Ouais.
Qu'on ne connaît pas tant que ça, quand même,
dans
le cinéma
Office.
Du genre. Oui,
mais je comprends ce que tu disais. Oui.
C'est un film qui est tourné avec, qui se met lui-même en scène, mais également aussi Emily Blunt, qu'on a pu voir dans Sicario. Mm-hmm. Si vous avez vu la bande-annonce du film, faut garder le silence tout le long. Mm-hmm. Moi, je soupçonne aussi, j'en parlais avec un ami, je soupçonne que ça va être une torture aller voir ça au cinéma.
Ah ouais?
Parce que
le popcorn,
les gens, là. Fait que c'est un film qui se déroule complètement en silence, mm-hmm. parce que c'est dans un monde post-apocalyptique. Mm-hmm. On suit une famille qui vivent dans une petite maison, puis il faut faire le moins de bruit possible parce que si malheureusement on fait un bruit,
ça réveille quelque chose.
Une entité des bibitte ou je sais pas.
On sait pas quoi, mais...
Ça réveille Jojo Savard, puis elle revient avec son astrologie terrifiante!
Elle est partie, elle est encore là, elle.
Le film a été présenté en première à South by Southwest la semaine passée, puis les critiques sont malades.
Ah, mon Dieu.
Puis, je pense qu'on va avoir une bonne... ça promet une bonne dose de monstres, comme on les aime. Mm-hmm. Je veux pas trop le hyper. Je pense qu'on l'attend quand même tous avec impatience, donc on a quand même... Bien.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous avez peut-être remarqué que dans la dernière année, là, on a remarqué beaucoup de films où il n'y a pas de lumière, sinon le tueur arrive.
Ouais.
Il n'y a pas de son, sinon le tueur arrive. Il n'y a pas de mouvement, sinon le tueur arrive. Il y a beaucoup ça. Hein?
Ouais.
On a une petite mode, puis c'est correct. Mais j'ai l'impression que ce qui, moi, va me faire triper le plus, m'affecter le plus, c'est plus le son, justement, sur un film comme celui-là, dans le silence, qu'un film où Lights Out, genre, il n'y a pas de lumière. C'était plate, Lights Out. Ça aurait pu être meilleur avec l'idée, mais dans cette optique-là, j'ai l'impression que Quiet Place, ça va me faire triper beaucoup plus pour sa thématique.
Je dirais qu'il y a aussi Quiet Place, il y a la recherche derrière l'image, le scénario, tout ça a l'air un peu plus développé que justement un Lights Out qui veut juste plaire à...
C'est-tu jumpscare?
C'est
scary,
faire du jumpscare,
c'est ça.
Des trucs faciles.
Oh, ouais.
Cool. Donc, à surveiller dans les prochaines semaines. Mm-hmm. Également, au mois d'avril, un film qu'on a peut-être un peu moins entendu parler, qui met en vedette Joaquin Phoenix, qui s'appelle You Were Never Really Here.
Ouais, j'ai vu ça passer.
Donc, c'est... en fait, on parle plutôt... Là, c'est pas un film d'horreur pur. Là, on parle plus d'un thriller très froid. C'est la réalisatrice écossaise Lynn Ramsey qui nous a donné We Need to Talk About Kevin.
Oh, ok.
Qui nous apporte ça. Donc, le film a gagné le prix du meilleur scénario, en plus d'être nominé pour la Palme d'Or lors du dernier Festival de Cannes. Puis, il y a eu une ovation de 7 minutes.
Wow!
Oh, quand même, hein?
Donc,
J'ai jamais eu ça, moi. Non, non. Ah non, mais c'est intéressant, ça fait mousser.
Ouais. Puis, ben, allez voir la bande-annonce, parce que ça a l'air quand même assez, assez cool. Profond et dark.
Rappelle-nous le titre?
You were never really here.
Ok, cool.
C'est pratiquement
à surveiller. C'est pas grave, t'as tellement une belle voix radiophonique, Marc. On va te le dire, là. Maudit que c'est chaud.
L'autre film dont je voulais vous parler, là, j'ai eu une petite montée de lait cette semaine parce qu'on a eu des nouvelles aussi concernant Montreal Dead End qu'on attend avec impatience. Ben oui. En fait, juste pour expliquer rapidement, il y a eu le socio-financement pour Montreal Dead End. Moi, personnellement, j'ai participé à cette campagne-là. Donc, pour un montant, par exemple, de 30$, ça nous donnait droit en mars à une projection en avant-première du film. Ah, fait que moi, j'étais super excité. J'étais comme, OK, je vais voir le film avant tout le monde. Ben non, oui. Non. Puis, ce que j'ai pas su, parce que j'ai pas suivi, c'est que... ils n'avaient pas atteint leur objectif de ce sous-financement. Puis ce que je ne savais pas quand tu n'atteins pas, c'est que ton 30$ n'est pas débité. Donc, ta contribution ne fonctionne pas. Donc, finalement, moi et les autres n'ont jamais contribué à ce film-là. Donc, il n'y a plus d'avant-première à Montréal en mars. Puis, ce qui arrive, c'est que parallèlement à ça, parce que là, je me suis mis à crier « Comment ça? » Puis blablabla.
Ben oui. On se laisse vite emporter. Hein? On est pris de passion.
Puis, évidemment, parce que moi, j'attendais ça avec impatience. Puis, le film annonçait la semaine dernière qu'il allait avoir la première à Bruxelles, au Brussels International Festival.
Je me rappelle de ta montée de lait sur Facebook. Là.
Tu t'en souviens, hein?
Je m'en souviens, là. Puis maudit que t'avais raison.
Fait que là, j'étais comme... Christ. On a eu Les Affamés en première à Toronto.
Oui.
Après ça, il y a Summer of 84 en première aux États-Unis. Un festival, je me souviens plus du nom. Là, on a un film, une anthologie sur les quartiers de Montréal qui est présenté en première à Bruxelles.
Oui.
Là,
ça n'a pas de bon
qu'est-ce
sens.
Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre?
Ça a l'air qu'ils ont. Je sais, ça a l'air que les plus beaux événements du 375e de Montréal étaient en Australie d'ailleurs. Non, non. je m'y
J'attendais.
Mais il reste que c'est décevant pis c'est triste. On dirait qu'on peut pas profiter de nos propres bijoux qui sortent.
C'est pas de leur faute parce que eux, ils avaient fait l'application à ce festival-là parallèlement à la campagne de financement. Puis là, ils se sont retrouvés acceptés. Fait que là, on y va-tu, on y va-tu pas? Ce qui arrive, par contre, c'est que les Belges, s'il y a des Belges qui nous écoutent, vous ne verrez pas la version finale du film. Au moins, parce que
on vous
film...
aime pareil, là. Mais...
parce que le film est quand même encore en production, ben en post-production.
Ça, c'est
finalement.
Comme trop vite. Mais en même temps, c'est le fun aussi. Ça arrive à Fantasia aussi, ce genre de choses-là.
Oui, ça
arrive
j'ai
souvent. Eu la chance de découvrir des films que j'ai adorés, qui étaient pas terminé, puis qu'il y avait des scènes pixelisées, qu'il y avait des affaires, il nous l'avait présenté comme tel, dit, regardez, c'est pas terminé, c'est pas la version finale, blablabla, puis finalement, le film n'a jamais vu le jour, tu sais, ça arrive, tu sais.
Ça arrive dans du bon puis dans du mauvais, moi, je pourrais t'en compter des traits négatifs comme ça.
Ben, tu vas revenir, tu vas revenir.
Puis, en fait, c'est ce que je voulais dire, donc, il utilise le festival un peu pour tester. C'est ça. Nous, on va voir la version finale à Montréal en juillet. Ils disent en juillet, ça sera probablement à Fantasia, on imagine.
On espère.
En juillet aussi, j'ai un peu de temps pour vous parler. Est-ce que vous aimez purger, les garçons?
Oh, Seigneur.
Oh, sac.
J'ai pas aimé, je m'excuse.
Non?
Le premier, j'ai vraiment pas aimé ça. Le deuxième, je me suis pas donné le trouble. Le troisième, tout le monde m'a dit qu'il était très bon.
Il était très bon.
Mais j'ai pas... Ça, c'est quoi? C'est le quatrième, ça?
C'est le quatrième. Ça s'appelle The First Purge. Puis, en fait, c'est un prequel. Donc, ça se passe avant la première nuit de Purge. Mm-hmm. De Purge. Puis
pour
on
compenser,
va...
moi, je vais quand même dire que j'aime bien la Purge.
Oui.
C'est pas des chefs-d'œuvre, là. C'est des films d'action, puis, tu sais, qui brassent. Mais J'haïs pas ça, moi. C'est vrai que le troisième était le meilleur.
Un jour.
Donc, en fait, ce qu'on va pouvoir voir dans ce film-là, c'est l'origine de cette nuit, pourquoi, comment, ouais. Et etc. ça, j'ai étudié que ça sortait le 4 juillet pour la fête des Américains. C'est un peu logique.
Oui, wow.
On s'y attendait même pas.
Des idées.
Je suis sûr que tu m'aurais posé la question, j'aurais essayé ça comme premier guess.
Je vous parle de The Meg, en fait, qui est une adaptation d'un roman très, très, très attendu qui arrive le 10 août prochain en salle. Donc, c'est un roman de Stephen Alton, publié en 1997. C'est un monsieur qui a survécu à l'attaque d'un requin de 70 pieds.
Oh, wow.
Qui doit affronter ses peurs parce qu'il est coincé avec des gens dans un submersible. Donc,
une espèce de panique. Un film de... Lui, il panique, puis on ne sait pas comment il va réagir. C'est un peu ça?
Oui, c'est ça, exactement. Ben, okay. C'est un genre de
huis clos
avec un requin. Pour ceux qui aiment les films de requins, ça va être notre film de requin de l'année. Parce que ça fait des années que ce film-là est en production, en pourparlers, okay. Et blablabla. Moi, j'ai un peu déchanté quand j'ai vu un peu l'équipe qui était derrière ça. C'est John Turteltaub qui réalise le film, qui est surtout connu pour avoir réalisé National Treasure et Phenomenon.
Misère.
Je veux dire, ça parle pas trop.
OK, ouais.
Puis, c'est un film qui met en vedette Ruby Rose, qu'on a pu voir dans Resident Evil, puis Jason Statham.
OK, mais y a-tu juste moi, anyway, là, qui a comme... On a fait le tour, là, des films de requins, là.
Moi, là, un bon film de requins, j'adore.
J'ai trouvé...
The Shallow,
c'était
bon. Il est bon?
Bon, oui.
Oui.
Bon, je vais la regarder. Je regarde plus de films de requins, je les trouve toutes plates.
47 Meters Down, ouais. Qui est sur Netflix, tu regarderas
ça. C'était pas pire, ça aussi.
Moi, j'ai aimé ça.
OK, c'est bon.
Bon, ben, Shallow, ça, je vais les essayer, je vais leur donner une chance. Ouais, parce
The Shallow, t'as quoi? T'as 4 personnages, ben 5 si tu comptes le requin.
C'est ça que j'aime.
Puis c'était très bon.
Dépouillé.
OK.
Oui. Ouais.
A, B, C.
Ben, parce que j'ai rien contre le style. C'est juste que je trouve que, ils sont fatigants avec leur tornade de requin, là, pis requin avec des tentacules qui volent pis qui lancent des lasers avec ses yeux. Bon, là, je pense que c'est fait que j'ai décroché.
Le Shallow, j'étais cool. Très surpris.
Ouais. Bon, je fais un coup d'œil. Ça, c'est de Meg.
De Meg, qui sort le 10 août.
Hey, génial. Cool. Ben là, ça veut dire que va être obligé de te réinviter pour finir ça. Ben, t'es bien sûr toujours ici, là.
Un jour, je vais la finir, je vous le promets.
Mais je pense qu'on va juste les tirer toute l'année.
On aime trop
correct.
Ça.
C'est correct.
De toute façon, si je te parle de films au mois d'octobre, tu t'en souviendras plus. Là.
Ben non, mais il y a toujours des nouvelles nouveautés, tu l'as dit. Fait que je pense que la prochaine fois, on va poursuivre ce sujet-là, si ça te va.
Ben oui.
On pourra quand même faire quelques petites nouvelles en même temps.
Ouais.
Merci beaucoup, Marc. Attachez votre ceinture. Soyez patient. On va revenir avec la suite. Moi-même, j'ai hâte. On écoute des nouveautés, mais tu sais.
Ouais, puis surveillez tout ça parce qu'on a des concours pour tous ces films-là qui s'en viennent aussi.
Oh oui, horreur.québec, hein, pour toutes vos actualités du milieu de l'horreur au Québec. Il y a toujours plein de concours. Suivez la page Facebook, d'ailleurs. Le groupe, plutôt, Facebook. C'est là que tout se passe.
Oui, ben la page, le groupe Twitter, Instagram, gna gna gna.
Et voilà, surtout gna gna gna, très belle plateforme.
Gna gna gna, j'adore.
Ben messieurs, merci. On se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est le retour de Dom Massy qui va nous parler d'un de ses classiques d'horreur. Olivier, tu nous prépares un petit quelque chose aussi. Merci d'avoir été là cette semaine. On se quitte avec Dillinger Escape Plan avec Mike Patton d'un album Irony is a Dead Scene que j'adore. Marc, t'allais dire quelque chose?
Non, j'allais dire bye. Merci.
OK, c'est parce que t'as comme approché ta bouche et t'attendais. Hey, merci tout le monde. Merci Marc. Merci Olivier.
Merci.
À la semaine prochaine, chère créature.
Bye.